France Inter. Le 18-20, Pierre Veil.
Et voici le téléphone sonne, pardon encore, ma voix, à cause d'un coup de froid, je ne sais pas. C'est pas la grippe, je suis vacciné contre la grippe, mais la voix n'a pas supporté les fraîcheurs ambiantes. Le téléphone sonne, c'est votre émission, l'occasion de vous entendre, et ce soir, on compte sur vous. Tous les journaux, en ce moment, font des bilans de l'année 2019 et désignent le ou la personnalité de l'année. Time Magazine a désigné la jeune militante écologiste suédoise Greta Thunberg, femme de l'année. Eh bien, ce soir, appelez-nous, oui, dites-nous, qui est le ou la personnalité de l'année, selon vous, que ce soit en France ou à l'étranger, que ce soit une personne que vous admirez ou pas du tout, hein, mais vous estimez que cette personnalité a marqué cette année 2019. Surtout, bien sûr, expliquez-nous bien votre choix. On attend vos appels, et pour réagir, pour commenter vos choix, trois invités dans ce studio, elle vient d'arriver. Fabienne Pascaud, la directrice de la rédaction de Télérama, bonsoir.
Bonsoir.
Frédéric Dabi, il est directeur général de l'Institut de sondage IFOP. Il étudie de très près la population, les opinions en France, bonsoir.
Bonsoir.
Et puis Joseph Gosne, c'est le directeur de la rédaction de Vanity Fair. Bonsoir Joseph Gosne. Vous avez publié une liste des 50 Français les plus influents de l'année.
Oui, absolument.
On va voir si ce soir les auditeurs retrouvent les choix que vous avez faits dans Vanity Fair.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Au standard, tout de suite, Mireille nous écoute dans le Tarn. Bonsoir Mireille.
Bonsoir à vous tous.
On vous écoute. Quelle est pour vous la personnalité de l'année 2019?
Greta Thunberg.
Pourquoi? Dites-moi
parce
pourquoi.
Que pour moi, elle représente la jeunesse qui s'engage, qui sait ce qu'elle veut pour l'avenir, leur avenir d'ailleurs. Cette même jeunesse qui nous alerte sur nos errements, qui mettent leur avenir en danger. Donc, je fais partie des générations passées, j'ai 72 ans. Et je pense qu'il faut leur faire confiance. Nous leur devons un soutien inconditionnel à cette jeunesse que Greta incarne très bien. Je trouve cela tellement inattendu et extraordinaire que je souhaite pour 2020, si vous permettez, que nos politiques les entendent, l'entendent cette jeunesse, surtout ceux qui oublient leur devoir premier d'œuvrer pour le mieux vivre et le bien-être de nous tous. Je vous remercie d'avoir pris mon appel, monsieur.
Mais je vous en prie, Mireille, merci beaucoup d'écouter le téléphone sonne et France Inter. Joseph Gosne, directeur de la rédaction de Vanity Fair, vous êtes surpris par ce choix. Je dois dire qu'on a sur le site de l'émission de nombreux courriels, de nombreux auditeurs qui évoquent, qui citent le nom de Greta Thunberg.
Non, je suis pas du tout surpris parce que Greta Thunberg est vraiment la personnalité qui a émergé depuis... Depuis un an, elle représente effectivement, comme le disait l'auditrice, quelque chose de à la fois de générationnel et de très neuf et de politique, de générationnel parce qu'évidemment par son âge et par tout ce qu'elle touche et tous les gens autour d'elle, elle représente effectivement un renouveau, mais un renouveau qui n'est pas uniquement dans la simple génération, mais qui est aussi un renouveau politique. Et ce qu'elle apporte comme message est un message qui justement est pour le coup transgénérationnel et qui touche tout le monde. Et c'est par ailleurs le message qu'on a le plus entendu, qu'on a le plus envie d'entendre aussi cette année, qui est le message sur le changement climatique et ce qu'il faudrait faire.
Frédéric Dabi, directeur général de l'Institut de sondage IFOP.
Oui, je partage ce qui vient d'être dit. C'est vrai qu'elle a particulièrement éclaté, si je puis dire, cette année, dans un contexte où, pour la première fois dans les enquêtes d'opinion de l'IFOP, la question de l'environnement est arrivée au même niveau de préoccupation que la question du pouvoir d'achat. La bataille d'Hernani entre la fin du monde et la fin du mois semble être relativement mise à distance. Toutefois, deux éléments. C'est quelqu'un qui n'est pas consensuel du tout. Elle a fait l'objet de critiques et elle est devenue un objet de controverse dans le champ politique. Deuxièmement, en France, il y a des personnalités qui, pour les Français, incarnent l'environnement. Nicolas Hulot, même si son bilan à la tête de son ministère est très controversé. Et puis, cette année, c'est aussi l'émergence de Yannick Jadot comme force politique à travers Europe Écologie Les Verts. Et puis, j'avais été frappé dans une enquête faite à la fin du mois d'août où les médias parlaient énormément de Greta Thunberg dans notre question mensuelle sur les conversations des Français. Son voyage en bateau pour aller à New York avait été très peu cité par les Français quand, dans le même temps, la forêt amazonienne. L'incendie, les incendies qu'on a connus au mois d'août et septembre étaient cités comme le premier sujet de conversation des Français.
Fabienne Pascaud, directrice de la rédaction de Télérama, Télérama magazine culturel qui s'intéresse à tout ce qui fait l'opinion, à tous les grands courants de pensée, l'environnement, la défense de l'environnement, les dangers du réchauffement climatique. Là encore, est-ce que vous êtes étonnée par ce choix de nombreux auditeurs et auditrices qui viennent sur ce nom de cette militante écologiste suédoise, Greta Thunberg?
Pas du tout, parce que ça aurait pu être mon choix aussi. Je trouve que c'est une jeune fille extraordinaire et les dénigrements dont elle a été victime, notamment par Donald Trump, j'ai trouvé ça obscène et lamentable. Mais ce qui me bouleverse surtout, c'est sa génération. C'est le fait que des jeunes et des jeunes femmes, beaucoup, de par le monde, hein, en Afrique, il y a aussi beaucoup de jeunes femmes qui défendent l'écologie. C'est cette génération qu'on a longtemps vilipendée en disant qu'ils étaient pas politisé, hors du coup, de voir que des jeunes, tout à coup, se mêlent du monde et nous donnent des leçons, parce qu'ils nous donnent des leçons, je trouve ça, pour l'avenir, un signe d'espérance et je trouve ça totalement enthousiasmant.
Jackie, dans le Gard, nous appelle. Bonsoir, Jackie.
Bonsoir, Pierre Veil.
Merci d'écouter France Inter. Quel est votre choix pour 2019?
Alors écoutez, déjà bonne fête et un plaisir de partager ce petit temps d'antenne et effectivement pour répéter que l'urgence écologique est très importante. Alors je vais nommer quelqu'un de très connu aussi pour ses actions. Pour moi c'est plutôt Nicolas Hulot parce que contrairement à ce qui vient d'être dit, les gens n'ont pas été déçus par la démission de Nicolas Hulot. Au contraire, par sa prise de position, par son déterminisme, il a été le déclencheur de la prise de conscience internationale, parce que son acte a été vu dans le monde entier. Et je trouve que tout ce qui découle depuis, et bien sûr que Greta fait un travail remarquable et mérite la reconnaissance, et tous les foies jaunes qui la vilipendent feraient mieux de regarder la vérité en face. Nous avons besoin d'un changement de paradigme, et Nicolas Hulot a été capable de donner cette impulsion, et depuis sa démission, on n'a pas entendu autant parler d'écologie et d'action à entreprendre, et je pense que ce serait mérité de lui reconnaître. Alors, je voudrais rajouter qu'au niveau français, je vais faire un aveu, Mathieu Vidard mériterait d'être l'homme de l'année, parce que de transformer la terre, la tête au carré, en la terre au carré, et d'aborder le sujet de l'écologie, qui est encore une fois le sujet dont dépend la survie de l'humanité. On devrait enclencher un plan Marshall. Eh bien, merci Mathieu Vidard. Moi, je vous félicite et je vous désigne homme de l'année en France et Nicolas Hulot au niveau international.
Eh bien, parfait. Je pense qu'il écoute le téléphone sonner et qu'il sera très heureux, Mathieu Vidard. Et c'est vrai qu'il évoque chaque jour ces dossiers très importants concernant l'environnement sur France Inter. On a également des courriels que je voudrais tout de suite vous soumettre. Sabine Dosser, elle nous dit « Il me semble que l'une des grandes thématiques de l'année, c'est le renouveau de MeToo avec les révélations d'Adèle Haenel. Elle a très bien parlé des violences qu'elle a subies et c'est en plus une excellente actrice. Je pense que c'est ma personnalité de l'année. » Fabienne Pascaud.
Oui, c'est la mienne aussi. Oui. Oui, Adèle Haenel, elle a été d'un courage exceptionnel grâce à une longue enquête de 7 mois de Mediapart faite par Marine Turchi. Elle prouve à quel point elle a mesuré Adèle Haenel. Elle est intervenue au bon moment quand on ne pouvait pas lui reprocher d'être une victime, de jouer les victimes pour à qui ça pourrait profiter, pour qu'on parle d'elle, pour qu'elle ait des rôles. Elle a vraiment pris ses responsabilités pour ses aveux mûrement réfléchis et sa prise de position nous dit que les femmes ne doivent plus se taire, qu'on ne doit plus faire silence, qu'on doit oser parler, et elle a libéré la parole par ce geste. Maintenant qu'elle avait toute la potentialité, parce qu'elle a été remarquable dans le film de Céline Sciamma, le portrait d'une jeune fille en feu. Et donc, son exemple, son exemplarité, je trouve que c'est magnifique, aussi bien d'un point de vue esthétique que politique. C'est un geste politique qu'elle a fait.
Frédéric Dabi, directeur général de l'Institut de sondage IFOP, Adèle Haenel. Oui, elle revient souvent dans les courriels que nous recevons.
Oui, elle est quand même peu connue des Français. On avait tenté de la faire rentrer, si je puis dire.
C'est
dans
une
le...
grande actrice,
ah,
quand même.
Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une grande actrice. Bien d'accord, personnellement, j'ai été beaucoup frappé par certains de ses films. On avait tenté de la faire rentrer dans le top 50, qui est l'enquête de popularité qui est la plus ancienne de France, faite par l'IFOP JT depuis une trentaine d'années. Et par un déficit de notoriété, n'avait pas passé la rampe. Mais ça n'a aucune importance. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'elle s'inscrit dans un mouvement de fond, MeToo. Cette année, l'affaire liée au suicide de Jeffrey Epstein et les différentes révélations de viols et d'agressions sexuelles, ça a beaucoup marqué les Français. Je note quand même deux éléments de nuance. D'une part, il y a toujours un clivage de genre. C'est toujours les femmes qui sites qui, je dirais, mémorisent, qui mentionnent et qui s'expriment plus sur ces sujets que les hommes. Et puis, d'une manière générale...
Oui, c'est normal.
Oui, tout à fait. Mais c'est un sujet général, qui n'est pas un sujet de genre, qui est un sujet qui concerne, qui devrait concerner tous les Français. Et puis, quand même, il y a, dans les propos spontanés des Français, une petite musique sur une certaine distance entre ces affaires qui ne les concernent pas directement et la question sociale. Les inégalités salariales femmes-hommes sont nettement plus citées comme des sujets scandaleux sur lesquels les politiques devraient davantage se mobiliser. J'en profite pour répondre à votre auditeur de tout à l'heure sur Nicolas Hulot. Je n'ai pas dit que les Français étaient déçus de sa démission, pas du tout. Ils étaient assez déçus sur son bilan, mais la démission de Nicolas Hulot a été parfaitement comprise et c'est vrai que ça a été le début d'une prise de conscience.
Joseph Gozne, sur ce choix de Adèle Haenel qui revient.
Évidemment, oui. Adèle Haenel est une des personnalités de l'année, mais au-delà même d'Adèle Haenel et même au-delà du mouvement MeToo qui arrive en France et qui s'est installé durablement grâce à elle, il y a je crois un mouvement de fond qui fait que les personnalités de l'année sont vraiment des femmes. Enfin, pour moi, en tout cas, j'ai vraiment cette impression-là. Et que les sujets les plus saillants, hormis en politique, en fait...
Quelles d'autres femmes ?
Ben, par exemple, je pense à Esther Duflo, qui est l'économiste française, mais installée aux États-Unis, qui a eu le prix Nobel d'économie.
Oui.
Et avec des travaux qui là encore sont des travaux assez saillants sur la pauvreté et la façon de la considérer ou de la reconsidérer plutôt. On est vraiment dans un moment où ces questions-là, les questions les plus importantes, que ce soit le climat, le genre, le rapport homme-femme, la pauvreté, etc., sont des questions qui sont finalement prises en charge par des femmes aujourd'hui, et ce sont elles qui font avancer ça. Et quand on voit par le rapport aux hommes et à la politique, en fait, en politique, il n'y a pas ces mêmes figures-là qui émergent, et le champ politique, à mon sens, international, est plutôt comment dire, obscurci par une figure comme celle de Donald Trump.
Alors c'est formidable, on a plein de courriels, justement vous parliez des femmes. Frédéric à Compiègne, moi j'aurais choisi Megan Rapinoe, l'américaine qui a gagné le Ballon d'Or cette année, bien sûr, star de l'équipe féminine de football, les États-Unis qui ont remporté la Coupe du Monde de football. On n'en parle pas suffisamment car elle est éclipsée dans les médias par ses confrères masculins. En plus de ses très belles performances sur le terrain, c'est une personne vraiment engagé en faveur des droits LGBT, donc ce choix, Megan Rapinoe. Fabienne Pascaud.
Je ne suis pas très fortiche en football, pardonnez-moi.
Ouais. Mais sa personnalité, ses déclarations extrêmement dures visant Donald Trump, sa défense des droits LGBT,
bien sûr, c'est
ça en fait une véritable icône.
Bien sûr.
Et puis moi, ce qui me frappe, c'est qu'elle s'inscrit en rupture avec le footballeur traditionnel qui prend très peu parti d'un point de vue politique. Elle, d'une part, ça a été la meilleure buteuse de cette Coupe du Monde de football, mais elle a été très présente et très, si je puis dire, relayée sur ses prises de position anti-Trump, sur les droits LGBT. Elle a un peu cassé les codes du sportif qui reste dans son couloir. Et quand un sportif fait de la politique, de Cassius Clay, Mohamed Ali, au point levé au JO de Mexico de 68, on le note comme une véritable exception.
Mmh. Moi, je pense que Megan Rapinoe pourrait faire une couverture sur Télérama. Hein.
Ah, vous croyez ?
Oui, c'est un père de football. C'est un personnage qui dit beaucoup de choses. Elle a dit quelques vérités bien senties. Hein.
On va y réfléchir.
On va au standard avec Gilles. Gilles, bonsoir. Vous êtes en Martinique ?
Oui, bonsoir.
Merci d'être avec nous. Quel est votre personnalité de l'année 2019, Gilles, en Martinique.
Alors, dans votre demande, vous demandiez deux personnalités. Donc, pour l'international, bien sûr, j'ai mis Greta Thunberg, comme beaucoup d'autres.
Oui.
Et pour le national, eh ben, j'ai mis le gilet jaune. Hein, je précise bien le gilet jaune. Le gilet jaune, qui est un emblème. Il y a eu le bonnet phrygien, il y a eu les gones, les poulbeaux. Voilà, donc le gilet jaune, et comme le Gaulois, il va rentrer dans l'histoire de la France. Donc je l'ai mis comme personnage, pour moi, de l'année.
Pour vous, c'est le symbole quoi, de la contestation?
Oui, d'une contestation raisonnée, manifeste, qui ne lâche pas.
Durable?
Probablement, on verra sur, vous savez, 89, ça s'est fait depuis 86, hein. Donc voilà, on verra. Mais c'est pour moi un personnage important, alors même si c'est pas une entité physique unique. Hein. Voilà, c'est une personnalité de l'année, le gilet jaune. Vous pouvez mettre tous les visages que vous voulez dessus, chauve, barbu, vous savez, l'intelligence artificielle, et vous gardez le gilet jaune en dessous.
Il y a des manifestations de gilets jaunes en Martinique chez vous? Oui.
Il y a eu... Alors, très peu. Vous savez, les gilets jaunes ici, c'est une frange d'une forme de revendication qui est beaucoup plus large. Hein. Donc les gilets jaunes sont un épiphénomène ici, mais il y a beaucoup de revendications ici, hein, bien sûr. Il y a eu des gilets jaunes, mais jamais 5 000 ou 6 000 ou 7 000 personnes. Il y a eu des centaines.
Et qu'est-ce que vous retenez comme revendication principale chez les gilets jaunes?
Le droit à exister, tout simplement, le droit à être reconnu par le pouvoir, qui apparemment n'écoute pas beaucoup. Après, vous avez des systèmes de taxes, de refonte des assédiques, de baisse des aides au logement, aux étudiants, enfin tout ça, quoi. Le gilet jaune, c'est un, comment dire, c'est un gavroche.
Merci Gilles en Martinique de nous avoir appelé. Frédéric Dabi, le gilet jaune, un gavroche?
Alors, je partage plutôt la remarque de votre auditeur. C'est vrai que ce mouvement, en 2019, il est devenu virtuel. Les actes des Gilets jaunes le samedi mobilisent peu de monde, mais les Français, on avait fait une enquête pour les 1 an du mouvement à la mi-novembre, sont toujours sur un soutien fort, majoritaire, entre soutien et sympathie à l'égard de ce mouvement. Ils opèrent toujours une forte dissociation entre les revendications des gilets jaunes et les actes de violence, quand bien même certains sont commis par des gilets jaunes, parce que ce qui me frappe, et on le voit dans d'autres enquêtes, c'est que ce mouvement des gilets jaunes résonne ou réactive des craintes très fortes chez les Français. La crainte du déclassement, la crispation sur le pouvoir d'achat. J'ai bien noté ce qu'a dit votre auditeur, le droit à exister, le sentiment d'être devenu invisible, d'être relégué dans sa ville, dans son village, parce que les services publics ont disparu. C'est intéressant de voir que quand on compare le mouvement social actuel, extrêmement fort en termes de couverture médiatique, en termes d'action sur le terrain, et le mouvement des Gilets jaunes, les Français citent le mouvement des Gilets jaunes comme l'événement le plus marquant.
Pierre est avec nous. Bonsoir Pierre. Vous êtes à Sébazan, c'est cela?
C'est ça, j'habite Sébazan. C'est un tout petit village à 25 kilomètres de Béziers.
Très bien. Quelle est votre personnalité de l'année 2019? Dites-nous tout cela.
Oh bien, je trouvais que ce garçon qui avait un nom arabe, dont je ne me rappelle pas d'ailleurs, je ne me rappelle pas exactement son nom, mais je trouvais que c'était très beau ce qu'il avait fait. Prendre, comment dirais-je, mettre sa vie en danger pour sauver un petit garçon qui était pendu, je crois, si je me rappelle bien, d'un balcon et qui allait tomber et qui allait se tuer à tous les coups. Bon, eh bien, je trouvais que c'était joli, ça. C'est un bel acte de l'abnégation et de courage. Et bon, et quand on sait qu'en plus ce garçon était en situation irrégulière, je trouve que c'est très beau. Voilà. On dit toujours que si on sauve une vie, quelque part on sauve peut-être un petit peu le monde. J'ai entendu ça. Et j'ai trouvé que ce garçon avait fait un bel acte de courage et qui méritait peut-être d'être cité dans les personnalités qui ont pu marquer cette année 2019.
Merci Pierre. Il s'appelle, ce garçon qui a fait cet acte de courage, il s'appelle Mamounou Gassama, Fabienne Pascaud. C'est vrai que c'est une image forte
c'est une belle
qui restera.
Mais c'est pour rebondir sur cet internaute, sur votre auditeur, notre auditeur qui ne se souvient plus du nom de cet arabe, dit-il. Moi non plus, je me souvenais plus de son nom. Mais tous ces gens dont on ne se souvient plus des noms, tous ces invisibles, ces réfugiés, ces gilets jaunes, je fais des amalgames, je mets tout dans le même sac, hélas. Moi, je trouve que le mouvement des gilets jaunes, il a été formidable aussi parce que ce ne sont pas que des gavroches, comme le disait l'auditeur. Gavroche, c'est Les Misérables, c'est Victor Hugo, c'est Parisien. Non. On a redécouvert ce qu'on appelle bêtement la France profonde, cette France qu'on ne voit pas, nous surtout, qui vivons quand même le monde des médias, dans l'entre-soi. Et ça nous a obligés, ça a été sain, parce que ça nous a obligés à partir sur le terrain, à revoir, à écouter, à entendre les autres. Et rien que pour ça, je trouve que effectivement le gilet jaune ou ce monsieur arabe dont on ne se souvient plus du nom, c'est formidable de les évoquer.
Joseph Gosne, Vanity Fair.
Oui, c'est
une image qui reste, l'image d'un acte courageux, direct, sincère.
En fait, j'ai deux images. Là, il y a effectivement cette image, que ce soit des gilets jaunes ou alors de tous les autres manifestants un peu partout dans le monde, que ce soit au Liban, au Chili, etc., qui effectivement ont manifesté avec courage cette volonté d'exister. Ça, je crois que c'est vraiment une des grandes images de l'année, quelle que soit la revendication. Et je crois qu'effectivement, le droit d'exister, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et ensuite, il y a une autre image, moi, qui m'est restée de courage et en tout cas d'émotion, c'est Notre-Dame.
Oui.
Parce que je crois que en France et au-delà, je crois que l'image de Notre-Dame qui brûle, c'était une des images les plus fortes de l'année.
Je reviens sur cet enfant qui a été secouru sur ce balcon. Moi, ce qui me frappe, alors là, c'est une opinion tout à fait personnelle, c'est aussi le développement à ce moment-là des fake news. On a vu circuler de nombreuses informations disant que cette image était truquée. Je veux dire, c'est aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on peut dire, on peut faire n'importe quoi. Et dans ce domaine-là, 2019, on a été servi, puisque même là, un simple acte de courage, de bravoure, est mis en cause par quelques illuminés. Fabienne Pascaud.
Oh, c'est sûr, on peut reprocher plein de choses aux réseaux sociaux et à Internet et effectivement, même dans nos métiers, ce culte de l'information immédiate, rapide, sans vérifier, qui nuit aux médias, qui nuit à la démocratie, qui nuit à notre manière de vivre ensemble. Les fake news, Internet, c'est aussi un formidable outil d'ouverture et de découverte au monde. Alors, il y a des dérives, mais c'est pas pour ces dérives qu'il faut maîtriser, qu'il faut jeter à la poubelle les réseaux sociaux, je pense.
Bien sûr. Frédéric Dabi.
Oui, comme la langue des hommes, c'est le meilleur et la pire des choses.
Exactement.
Ces réseaux sociaux, je partage complètement ce que Madame Pascaud vient de dire. C'est vrai que ces réseaux sociaux crée une sorte de pression, de dictature d'urgence qui fait que parfois les faits sont pas assez rapidement et pas assez correctement vérifiés. 2019 pour moi, c'est aussi cette affaire terrible de la vraie fausse arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès avec des journaux unanimes. Il y a une dimension en fait psychologique. Les Français veulent tellement chercher à comprendre et savoir pourquoi cette personne aurait supprimé toute sa famille, que tout le monde a cru qu'il avait été arrêté, y compris des médias, y compris des policiers. Là, c'est pas les réseaux sociaux. Ça montre à quel point l'information, la véracité de l'information, l'authenticité est quelque chose de friable et de difficile à obtenir.
Jack nous écoute dans l'Oise depuis un bon moment. Il est en ligne. Bonsoir, Jack.
Hey, bonsoir, France Inter.
Allez-y, vous êtes sur l'antenne.
J'ai écouté effectivement au premier degré Greta Thunberg, effectivement c'est magnifique ce qu'elle fait, Rapinoe aussi, et je pensais, je reprends un bon souffle, que Irène Frachon ne doit pas être oubliée, elle qui s'est attaquée à un gros morceau avec le Mediator, ça fait, vous me direz, vous vérifierez, enfin, je ne sais pas si c'est 3, 4, 5 ans qu'elle est sur ce dossier, avec tous les dégâts que ça fait eu, là aussi c'est une sacrée femme.
C'est vrai que le procès du Mediator, il a eu lieu en 2019 avec les grâce aux révélations, à ces alertes lancées par Irène Frachon, femme de l'année pour Jack dans l'Oise. Frédéric Dabi.
Oui, je comprends. Oui. Là, en plus, son combat a été popularisé par un très beau film qui a montré ce combat de longue haleine contre certains pans de l'industrie pharmaceutique. 2019, sur la question de la santé, c'est pas une année anodine. Pour la première fois dans l'enquête récurrente que l'IFOP fait à chaque rentrée scolaire, les questions de santé sont devenues les premières préoccupations des Français. C'est la première fois, du fait de la crise de l'hôpital, du fait de l'accès aux soins. Rouen et ce qui s'est passé dans l'usine Lubrizol, accélérer cette prise de conscience. Et on parlait de Greta Thunberg, d'environnement d'un côté, de santé de l'autre. Ces deux thématiques ne sont pas hermétiques, mais extrêmement, extrêmement liées. Cette poussée de la préoccupation environnementale a, par ricochet, fait remonter au premier plan les préoccupations liées à la santé.
Des courriels, Marielle à Dinan. Pour moi, je lis son courriel. La personnalité de l'année, ce sont les homards de François de Rugy. Je me dis qu'un peu d'humour pour clore l'année, ça ne peut pas nous faire de mal, vu l'atmosphère tendue. Et puis, ces homards, c'est un symbole des écarts politiques qui ne restent pas impunis. Joseph Gozn.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu, finalement, il y a eu tellement d'affaires, de choses qui sont... Il y a une addition d'affaires, je les ai presque déjà oubliées, en fait.
Oui.
Finalement.
Fabienne Pascaud.
Oui, ça c'est le petit côté de la lorgnette de la politique, de faire des scandales pour des... Enfin, c'est le petit côté de la lorgnette de certains médias, de faire des scandales pour des histoires de homards. Finalement, ça évite de parler de choses beaucoup plus importantes et beaucoup plus graves. On se focalise sur des détails comme ça. C'est bien que ça a été mentionné, mais bon, il y a d'autres choses dont je préférerais qu'on s'en parle.
Par exemple, par exemple.
La pauvreté, par exemple, l'état policier, les dérives de nos démocraties, par exemple la culture qui n'a pas assez d'argent. Voyez, il y a plein d'autres choses dont on pourrait parler.
Frédéric Dabi, cette image, cette affaire de
oui,
Rugy.
Surtout qu'elle a été, alors qu'elle n'a rien à voir, réactivée en cette fin d'année par la démission de Jean-Paul Delevoye. Ni François de Rugy, ni Jean-Paul Delevoye ne sont attaqués par la justice et n'ont été en quelque soit condamné, mais il y a un certain bon sens de l'opinion publique quand on interroge dans les enquêtes d'opinion. On est très peu souvent sur une logique du tous pourri. On est plutôt sur une logique du tous impuissant à résoudre les problèmes du pays, à résoudre la crise de l'hôpital, à faire en sorte que la culture soit accessible à tous. Et oui, il y a eu une très forte focalisation médiatique. Et là, on peut parler de meutes et de lynchage, et pour François de Rugy, et peut-être pour Jean-Paul Delevoye. Pour autant, les Français font la part des choses.
Cécile est en ligne avec nous, elle est à Annecy. Bonsoir Cécile.
Bonsoir.
On écoute votre choix. Merci de nous appeler.
Eh bien, je vous en prie. Alors, mon choix, c'est Boris Johnson.
L'homme de l'année.
Alors, l'homme de l'année, oui. Alors, c'est pas du tout mon bord politique. Mais, alors, deux motivations à ce choix. Le premier, c'est que c'est un homme qui va jusqu'au bout de ses idées, qui peut paraître fantasque et quelque peu loufoque parfois, mais malgré tout, qui va jusqu'au bout. Et l'autre, c'est que il marque un tournant. Il est en train de marquer l'histoire de l'Europe, en sortant la Grande-Bretagne de l'Europe et l'histoire de la Grande-Bretagne. Et voilà, pour moi, c'était l'homme de l'année.
Merci, Cécile. Joseph Gozn.
Oui, Boris Johnson, ça a été un véritable feuilleton. Enfin, le Brexit, c'est la question qui a un peu sous-tendu toute notre année, avec un certain nombre de rebondissements de ce que j'ai pu en voir, était suivi vraiment comme un feuilleton. On regardait le Brexit un peu comme on regardait The Crown, vous voyez, en se demandant...
Comme une série.
Et c'est exactement ça, comme une série. Sauf que la série a des conséquences beaucoup plus dramatiques qui arrivent assez vite. Mais c'est vrai que, par défaut, ça pourrait être un des hommes de l'année. Tout comme Trump pourrait l'être aussi.
Frédéric Dabi.
Oui, je partage complètement ce qui vient d'être dit. Il y a eu ces multiples rebondissements sur Brexit, pas Brexit. Le vote très clair des Britanniques me fait dire que oui, il y aura Brexit et une conséquence de dislocation sur le Royaume-Uni, puisque je crois que l'Écosse va organiser un référendum. Boris Johnson, alors, il est assez controversé. Certains le voient comme quelqu'un de churchillien dans le sens où il va jusqu'au bout, parfois seul contre tous. Mais en tout cas, le suffrage universel a été extrêmement clair de ce point de vue-là.
Alain, bonsoir Alain. Vous êtes à Bourg-la-Reine, près de Paris.
Oui, bonsoir. Écoutez, c'était un peu dans la continuité de ce que vous venez de dire, parce que la personnalité de l'année, je trouve pas celle qu'il faut citer, comme celle qu'il faut retenir, comme tous ceux qui ont été cités jusqu'à maintenant, mais celle qui était quand même marquante, c'était en effet Donald Trump. Faut pas oublier qu'il est là et qu'il est toujours là, qui déstabilise à peu près toutes les parties de la planète, l'OTAN, le Moyen-Orient, qu'il s'appuie en plus avec des personnalités, des Boris Johnson qui arrivent, enfin, ils s'appuient pas dessus, mais elles émergent aussi, un peu dans la même veine, dans la même trempe, avec des Bolsonaro, des Erdogan. Et c'est vrai que Trump, au milieu de tout ça, c'est un peu le chef de file, et on se dit, vous parliez de la dislocation de l'Angleterre et peut-être de l'Europe avec avec ça. Est-ce que Trump, c'est pas aussi la figure emblématique du déclin de l'Occident? Donc, pour moi, il représente quand même une grande personnalité de cette année, c'est-à-dire le crétin considérable, voilà, qui... Voilà, c'était lui.
Vous avez utilisé le mot dislocation, vous avez le sentiment que sa pensée est souvent touchée par la dislocation?
C'est-à-dire qu'elle n'est pas dislocatrice, elle n'existe pas. Il arrive, il rentre dans le tas, il donne un coup de pied, il sait même pas ce qu'il fait. Et puis après, tout autour, des choses se déstabilisent, des équilibres qui existaient, qui, bon, certes, les points d'équilibre sont mouvants, mais on peut pas comme ça, sans penser aux conséquences, tout détruire. C'est presque ça, c'est de la destruction.
Donald Trump, personnalité de l'année, même si on sent bien sûr vos réserves face au personnage. Joseph Gosn, directeur de la rédaction de Vanity Fair. Trump, c'est une image de l'Amérique aujourd'hui?
Trump, c'est effectivement une image de l'Amérique. On a presque envie de dire qu'il faudrait l'inventer pour y croire. Beaucoup plus qu'une image de l'Amérique, moi j'ai l'impression que c'est vraiment le symbole. On a parlé du déclin de l'Occident, c'est pas tellement le déclin de l'Occident, mais plutôt de cet état, comment dire, de l'homme, du mâle blanc qui règne sur le monde. On le voit avec tous les autres chefs d'État qui ont été cités. Il y a comme ça une espèce d'impunité autour de cette figure-là que je comprends plus trop aujourd'hui, mais effectivement Trump c'est un personnage qui disloque un peu tout, à la fois notre pensée, notre façon de le percevoir, puisqu'on est là aussi dans un feuilleton à multiples rebondissements, l'impeachment, pas l'impeachment, etc. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il ne fait pas, on est un peu perdu en fait quand on regarde bien la politique américaine, on ne sait plus exactement où on en est, et donc du coup c'est un personnage qui nous regarde autant que nous on le regarde et qui fait qu'on se pose pas mal de questions sur nous-mêmes déjà.
Et pourquoi on en est arrivé là? Comme on parle de l'Amérique, on a reçu ce courriel de Julie près de Paris. Elle dit « Ma personnalité de l'année, c'est la jeune Alexandra Ocasio-Cortez, la plus jeune membre du Congrès américain qui sait si parfaitement utiliser les réseaux sociaux, se mettre en scène et montrer qu'aux États-Unis, on peut réussir. » En ayant commencé sa vie en étant tout simplement une serveuse dans un restaurant et se retrouver aujourd'hui membre du Congrès, c'est une personnalité hors du commun. Fabienne Pascoe,
c'est vrai que c'est une personnalité hors du commun et le symbole de la réussite possible américaine. Mais pour revenir à Donald Trump, moi je trouve que c'est ni Boris Johnson ni Donald Trump, on peut dire que c'est les personnalités de l'année, c'est les anti-personnalités de l'année. Ce sont des bouffons qui sont au pouvoir et qui sont dangereux pour notre avenir. Donc dire que c'est des personnalités de l'année, alors ça me fait froid dans le dos, moi.
Mais ce sont des hommes qui ont marqué à plusieurs reprises l'actualité. C'est en cela, je pense, que nos auditeurs les ont choisis, parce qu'ils reviennent régulièrement par leur comportement erratique. Fabienne Pascoe.
Ouais, mais il faut en montrer les dangers, quoi.
Et qui sont légitimés par le suffrage universel.
Oui, parce qu'on a voté pour eux
Boris
tous.
Boris Johnson et Donald Trump. Alors, c'est intéressant de voir. C'est un des présidents les plus impopulaires depuis Jimmy Carter, mais son socle tient. Et c'est vrai qu'on peut pas dire aujourd'hui qu'il est réélu à coup sûr, comme s'il sera battu à coup sûr, mais très très clairement, il a un socle de supporters et des résultats économiques qui le mettent plutôt en bonne position dans la perspective de 2020.
Jean-Marc est à Dijon et nous écoute et voulait intervenir. Jean-Marc, bienvenue sur l'antenne. Jean-Marc, est-ce que vous êtes là? Allez-y.
Mon score international, donc c'est Greta et puis
Greta Thunberg encore, oui.
Pourquoi le pape? Parce que le pape, alors les papes précédents aussi, mais celui-là encore plus fort que les autres, il appelle à sortir de l'arme nucléaire. Et donc il appelle chaque pays, chaque dirigeant à signer le traité d'interdiction des armes nucléaires de l'ONU qui date de 2017. Voilà, une belle action à signer pour le début du siècle. Et puis localement, bon, Irène Frachon, évidemment, et puis l'agriculteur Paul François, cet agriculteur français qui a été empoisonné au cours d'une manipulation de produits chimiques par un produit Monsanto et qui a fait des années de bataille pour sa santé et de bataille juridique contre Monsanto et qui vient de gagner. Et on sait qu'il y a l'appel des coquelicots pour remplacer tous les pesticides par des produits sains et que la bio est depuis 60 ans. Donc voilà, Paul François, merci pour toutes les évolutions que tu as pu faire au niveau juridique.
Merci Jean-Marc, je retiens aussi dans les choix de Jean-Marc, Joseph Gosne, le pape François, c'est un personnage qui est important pour Vanity Fair, ses prises de position, ses engagements, c'est un homme qui se veut près du terrain, il défend les immigrés, il prend des positions politiques, il ne reste pas uniquement dans la sphère spirituelle.
Absolument, oui, c'est quelqu'un qui est plutôt engagé et qui est plus engagé que ses prédécesseurs, même si je n'ai personnellement pas beaucoup d'affect pour tout ce qui est religieux, mais il y a quelque chose effectivement qui a l'air de bouger.
Fabienne Pascoe.
Ah, moi je trouve qu'on a la chance d'avoir un pape remarquable parce que on a cité ses prises de position sur le nucléaire, mais il essaye aussi de sortir l'Église du silence qui règne depuis des siècles sur la pédophilie, sur les pratiques des prêtres, sur les religieuses, contre les religieuses, contre les enfants. Et puis il essaye de mettre enfin les femmes chrétiennes un petit peu à des postes qui deviennent plus importants au sein de l'Église, qui va être une manière de réinventer l'Église. Alors rien que pour ça, le nucléaire certes, mais la lutte contre la pédophilie et l'essor donné aux femmes, merci François.
Frédéric Dabi.
D'ailleurs, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, si je devais faire un choix personnel sur l'homme de l'année du point de vue de la culture, je citerais François Ozon. Son film « Grâce à Dieu » sorti en février dernier a été un véritable coup de semonce et il a mis une lumière extrêmement crue sur ce qui s'est passé avec ce père Prena et des silences coupables de sa hiérarchie.
Des femmes à l'honneur choisies par Armand à Paris. Pourquoi ne pas penser à Stéphanie Frappard, cet arbitre de football qui a officié pour la première fois en Ligue 1, un bel exemple d'avancée sur la place des femmes dans le monde souvent bien sexiste du sport de haut niveau. Joseph Gosne, une arbitre femme.
Une arbitre femme, oui. Nous, dans Vanity Fair, on a mis Wendy Renard, vous savez, cette footballeuse... Ouais. La footballeuse française qui était un peu notre sportive de l'année, notamment pour tout ce qu'elle a fait pendant la Coupe du Monde. Donc oui, évidemment, des sportives femmes, arbitres ou joueuses, évidemment.
Merci à nos invités. Le temps a passé très vite. C'était le Téléphone Sonne avec ce soir nos invités Frédéric Dabi, Joseph Gosne et Fabienne Pascoe. Merci beaucoup.